Ce qu'il faut, sire, c'est trouver le passage.
Et où est-il ? Ce passage ? Ce célèbre passage que personne n'a vu ?
Bonjour, aujourd'hui, deuxième épisode de notre série consacrée au navigateur du XVIe siècle, Magellan. Le voyage de Magellan, succès ou échec ? Toujours en compagnie du spécialiste des grands voyages maritimes de la Renaissance, Michel Chandaigne. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment le navigateur portugais a convaincu le roi d'Espagne qu'il existe un accès au sud de l'Amérique pour atteindre l'océan Pacifique et les îles Moluques. Le 20 septembre 1519, avant de quitter l'Espagne, Magellan ordonne à ses hommes de se confesser et aussi, curieusement, qu'il n'embarque pas de femmes à bord. Enfin, arrive l'heure du grand départ. La Trinidad, le navire amiral commandé par Magellan, le San Antonio, la Concepción, le Santiago et la Victoria mettent le cap au sud-ouest en direction des îles Canaries. Pour l'instant, l'itinéraire, qui suit de loin la côte africaine, est bien connu de Magellan. Il l'a souvent emprunté quand, par le passé, il naviguait pour le compte du Portugal. Après une escale à Tenerife, le temps de prendre des vivres, du bois et de la poix, ce goudron qui sert à calfater les coques, les cinq caracs de Magellan repartent en direction du Cap-Vert, au large de l'actuel Sénégal, puis poursuivent leur route le long de la côte africaine jusqu'au niveau de la Sierra Leone. C'est là seulement que l'expédition met le cap au sud-ouest, à travers l'Atlantique, en direction du Brésil. Juan de Cartagena, l'officier espagnol qui commande le San Antonio, ne comprend pas le choix de cette route. Mais Magellan refuse de lui donner des explications et exige qu'on lui fasse confiance. L'ambiance est de plus en plus tendue, et comme si ça ne suffisait pas, la traversée se révèle longue et difficile, angoissante même parfois. Antonio Pigafetta note dans le journal de bord « Nous naviguâmes sous la pluie l'espace de 60 jours jusqu'à l'équateur, chose fort étrange et qu'on n'avait pas coutume de voir, selon les dires des vieilles gens et de ceux qui avaient navigué là plusieurs fois. Les tempêtes sont si violentes qu'à plusieurs moments, écrit Pigafetta, nous étions en pleurs, attendant seulement l'heure de périr. Et près de l'équateur, les longs calmes plats où il fait une chaleur étouffante et où, en absence de vent, il est impossible d'avancer, finissent de miner le moral de l'équipage. Mais l'arrivée au Brésil en décembre 1519, donc 3 mois après le départ d'Espagne, apporte du réconfort.
Enrique.
Seigneur.
Sais-tu le nom de cette baie ?
Ah non, seigneur Pigafetta.
Eh bien, elle s'appelle baie de Rio de Janeiro. Rio parce que les Portugais qui sont venus ici il y a quelques années ont cru se trouver en présence d'un fleuve, tant la baie est profonde. Et comme on était en janvier, Janeiro.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Nous traversâmes l'océan jusqu'à une terre nommée Verzine, raconte Antonio Pigafetta. À cet endroit, nous eûmes des vivres frais comme des poules et de la chair de veau, ainsi que diversité du fruit nommé patate, pigne doux en singulière bonté et d'autres choses infinies. Dans l'hémisphère sud, c'est le début de l'été austral. Le 13 décembre 1519, Magellan décide de jeter l'ancre dans la baie de Santa Lucia, celle appelée aujourd'hui Rio de Janeiro. Rappelons que ce pays, appelé Verzine ou Brésil, a été colonisé par les Portugais seulement 19 ans plus tôt. Les habitants ne sont point chrétiens et n'adorent rien, écrit Pigafetta. Mais ils vivent selon l'usage de la nature plus bestialement qu'autrement. Les hommes et les femmes de ce lieu vivent nus, ils mangent la chair de leurs ennemis. Cependant, ils ne dévorent pas toute la personne qu'ils prennent, mais le mangent morceau par morceau. Nous demeurâmes 13 jours en cette terre des cannibales. Michel Chandaigne, comment s'est passée cette première partie du voyage ? L'ambiance à bord commence à être un peu difficile.
Oh, dès le départ, parce que le roi, enfin les autorités espagnoles avaient limité le nombre de Portugais à bord. Magellan voulait des officiers portugais en qui il avait confiance. Ils ont tous été remplacés par des capitaines espagnols. Et notamment Juan de Cartagena, qui est un personnage très étrange, sans doute le fils naturel de l'évêque Rodrigues da Fonseca, le ministre des Indes, et qui a clairement pour fonction d'éliminer Magellan à la première occasion. Les capitaines espagnols ont pour mission de l'éliminer. Mais Magellan est au courant. On l'a mis au courant de ce complot, donc il va saisir la première occasion pour mettre Juan de Cartagena au fer, prétextant une insolence. Et donc il va, comme ça, tout de suite étouffer la mutinerie qui déjà couvait dès l'Atlantique.
Et comment vivent les hommes à bord, les simples matelots? Il y a une grande promiscuité, je pense.
Il y a une grande promiscuité, on ne se rend pas compte, mais on peut s'en rendre compte si on va sur une réplique de ces bateaux. C'est des bateaux, la Victoria fait 24 mètres de long, il y a des vifs pour 2 ans, dont le tiers c'est du vin. Hein. si vous mettez 52, il y a 52 personnes, en gros une cinquantaine de personnes par navire, si vous les mettez tous sur le pont, c'est le métro aux heures de pointe. Les gens sont serrés comme des sardines. Ils ne peuvent dormir que dans des recoins pliés en deux. On n'a aucune idée et aucun film ne rend compte de cette promiscuité absolue. À la limite, c'est que seulement dans les haubans qu'on est un peu tranquille.
Et comment s'est fait le recrutement? Tous ces marins, ce sont des professionnels
Non, enfin, il y en a. Sébastien Elcano, celui qui va faire le tour du monde. C'était pour échapper à une condamnation qui s'est engagée. Mais ils ont beaucoup de mal à recruter des mousses, des matelots pour un voyage que l'on sait très long, très dangereux. Ils ont beaucoup de mal à recruter. Il y a 237 hommes qui partent. Et ils vont puiser dans des marins ou des canonniers qui sont en escale à Sanlúcar ou à Séville. C'est pour ça qu'il y a 10 nationalités. Et souvent, on ne leur dit pas exactement où on va.
Oui, parce que Magellan ne le dit pas. Est-ce que
oui, on sait que
Cartagena,
ça,
il l'a dit à Cartagena?
Oui, tout le monde sait que c'est une flotte qui va aux Moluques. On l'appelle l'armada des Moluques, mais on ne connaît pas l'itinéraire.
Il faut bien préciser, Michel Chandaigne, donc l'idée de Magellan, c'est de trouver un passage au sud de l'Amérique, du sud, et d'arriver aux Moluques. Et après, son idée n'est pas du tout de faire le tour du monde, comme on le dit souvent, mais de revenir sur ses pas.
Par la même voie.
Par la même voie.
C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne voyager que dans la moitié du monde, qui est le domaine espagnol. Et même dans les instructions, il a l'interdiction de pénétrer dans la zone portugaise. C'est-à-dire, non seulement il n'a jamais parlé tour du monde, il ne l'a jamais projeté, mais il avait l'interdiction de le faire. C'est pour ça que quand on parle de Magellan et du Tour du Monde, il y a bien sûr une association, parce que cette expédition a fini par un Tour du Monde imprévu.
C'est pas du tout prévu.
Mais c'est pas du tout l'objet de Magellan. Quand Zweig écrit Magellan s'élance pour son Tour du Monde, bon, il a fait un livre magnifiquement rédigé, mais qui est complètement obsolète et qui trouble l'idée générale.
Et en plus, Magellan ne sera pas là au moment où le Tour du Monde sera
fait. Oui, puis ce n'était pas son projet. Il aurait survécu, il aurait voulu revenir par la même voie. Mais il a découvert un passage au sud de l'Amérique et ça, ce n'était pas à gagner.
Ce voyage, on l'a entendu, et c'est aussi l'occasion de découvrir des peuples inconnus. Comment se passe cette rencontre avec les habitants du Brésil ?
Le Brésil était connu, puisque le principal pilote portugais y avait un fils, métis, qu'il recueille, qui va monter sur le bateau, Joanillo. Le Brésil était connu par les Portugais depuis 1500. Et en revanche, quand ils vont descendre le long de la côte argentine, ils vont rencontrer d'autres peuples, notamment les Tehuelches, qui vont être appelés Patagons, qui sont décrits comme des géants.
Il y a quand même un risque, puisque 3 ans plus tôt, un navigateur espagnol, Jean de Solis, a été attaqué par ces cannibales, il a été mangé près du Rio de la Plata.
Oui, alors, oui, bien sûr.
Parce qu'il les a attaqués, probablement.
Non, c'est sûr que la vision de ces Européens sur des bateaux était plutôt un signe d'hostilité. Oui, il est descendu à terre. C'est un Portugais qui s'était fait espagnol, qui naviguait pour le compte de l'Espagne et qui, en 1516, a fait la première exploration du Rio de la Plata et qui a descendu à terre, qui s'est fait manger sous les yeux de ses
camarades
restés sur le bateau. Oui.
Est-ce que Antonio Pigafetta dit tout? Parce qu'il y a d'autres témoignages.
Non. Alors justement, Pigafetta, on dit qu'il tient un journal. Oui et non, parce qu'on s'aperçoit que son journal, il l'a beaucoup reconstitué à la fin et en arrivant. Et par exemple, quand il arrive au Brésil, il parle de la langue des Indiens, mais il n'a pris aucune note, il ne se souvient de rien, donc il va puiser dans Martyr d'Anguira, un chroniqueur qui parle de colons. Pratiquement tous les mots brésiliens qu'il cite sont des mots, à vrai dire, arawak des Caraïbes. Et puis, il y a des tas de passages qu'il omet pour des raisons diplomatique, entre autres parce que c'est Elcano qui va revenir, il déteste Elcano, qui va...
El Cano, qui est celui qui va restera jusqu'à la Victoria, qui reviendra
la gloire du voyage. Ouais. Et il le cite jamais. Il faut dire que c'est un des mutins de l'expédition. Et il parle pratiquement pas de la mutinerie. Il y a plein d'épisodes dont il ne parle pas. C'est pour ça que publier 26 autres sources directes de marins, des correspondances, nous a permis de reconstituer l'intégralité du voyage, y compris pendant les silences de Pigafetta, qui sont très nombreux.
Merci Michel Chandaigne, on poursuit cette discussion dans le prochain épisode. Alors que l'expédition s'aventure dans des zones inconnues, l'ambiance au sein du commandement de la flotte de Magellan va se dégrader au point de mener à une véritable mutinerie.